Voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Michel Alberganti rencontre Françoise Barré-Sinoussi. Ce soir, l'expérience du laboratoire.
Bonsoir Françoise Barré-Sinoussi.
Bonsoir.
Alors à 24 ans, avant même d'avoir obtenu votre diplôme d'études approfondies, le DEA de l'époque, vous sentez qu'il vous faut choisir votre voie, c'est-à-dire votre futur métier. Et la perspective est alors d'obtenir, après le DEA, un doctorat d'État, soit plusieurs années d'études et de travail, et donc un gros investissement, sans véritable assurance d'obtenir un poste de chercheur à la sortie. Même si la recherche vous passionne, allez-vous décider d'en faire votre métier ? Dans notre première émission, vous nous avez expliqué qu'en scientifique, vous optez pour l'expérimentation afin de répondre à cette question. Au lieu de rester à l'université, vous partez à la recherche d'un laboratoire afin de mettre à l'épreuve votre vocation de chercheuse. C'est alors qu'une part de chance intervient, car vous trouvez un poste de stagiaire bénévole dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur. A-t-il été décisif pour votre carrière ?
Ce stage a été totalement décisif, puisque c'est lors de ce stage, de ce séjour en tant que bénévole, que finalement j'ai compris ce que voulait dire réellement faire de la recherche, comme on dit, que j'ai compris que c'était réellement une passion de pouvoir avoir la liberté quelque part de définir nous-mêmes nos propres interrogations, nos propres questionnements et d'essayer de répondre à ces questionnements par des expérimentations qui donnent des résultats. C'est réellement passionnant. Et c'est souvent, comme je dis, se remettre en question dans le sens où c'est rare qu'on ait la réponse du premier coup par une seule expérience. Et que ces expériences, il faut les répéter. Même lorsque les expériences donnent les résultats qu'on escomptait, c'est reproduire ces résultats parce qu'il faut les valider plusieurs fois. On ne peut pas se permettre sur un seul résultat de publier, il faut réellement confirmer soi-même ses propres résultats pour convaincre les autres. Et les autres, c'est la communauté scientifique et médicale dans son ensemble.
Alors que faites-vous à cette époque chez Jean-Claude Sherman ?
À cette époque, j'ai d'abord appris avec un chercheur américain qui était en stage dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman, à séparer des populations de virus, de rétrovirus, cette famille de virus un petit peu particulière, qui n'existait pas, qui n'avait pas été identifiée chez l'homme à l'époque, on parle des années 70. Et donc, il travaillait sur les rétrovirus de souris qui étaient capables et qui avaient été démontrés comme provoquant des leucémies ou des cancers chez la souris. Et donc, cette chercheuse américaine essayait de séparer par des centrifugations des sous-populations de cette famille de rétrovirus. Et elle m'a appris, d'une part, qu'est-ce que c'était que les rétrovirus, comment ils marchaient, je dirais, pour induire des cancers tels qu'on les connaissait à l'époque, hein, parce que ça a bien évolué ensuite après. Et puis, pourquoi elle essayait justement de les séparer par centrifugation. Et en fait, elle essayait d'avoir d'un côté les virus qui provoquaient plutôt des cancers et de l'autre côté les virus qui pouvaient servir d'aide au premier virus pour qu'il provoque des cancers. Donc ça a été les premières questions auxquelles je me suis intéressé à ses côtés pendant ma période de stage qui a abouti d'ailleurs à mon DEA, puisque mon DEA était déjà sur ce virus, et puis après d'engager ma thèse de science toujours dans le même laboratoire, toujours sur ces infections par les rétrovirus chez la souris.
Alors là, peut-être quand même une forme de coup de chance, d'abord un laboratoire qui vous accueille, ce qui n'était pas gagné d'avance, et puis ce sujet des rétrovirus, très nouveau à l'époque. Alors peut-être à ce stade, il faut définir ce qu'est un rétrovirus par rapport à un virus tout court.
Alors, les rétrovirus, ils n'étaient pas très très nouveaux, puisqu'ils ont été identifiés de tête comme ça, les premiers, au début des années 1900. Donc, c'est,
mais pas chez l'homme.
Mais pas chez l'homme. Mais de toute façon, à l'époque, il n'y en avait pas non plus chez l'homme. On ne travaillait pas. Les rétrovirus chez l'homme ont été découverts bien, bien plus tard. Ce qui était intéressant, c'est que dans les années 70, quand j'ai commencé à Pasteur, auprès de Jean-Claude Sherman, en fait, c'était la grande époque aux États-Unis où on se posait la question justement de relations entre cette famille particulière de virus et les cancers. Donc, il y avait un grand programme américain de l'Institut national, des instituts nationaux de la santé aux États-Unis qui finançait beaucoup ces recherches sur relations rétrovirus et cancers. Et c'est 1970-71, c'est la période de la découverte d'une enzyme tout à fait particulière qu'on appelle la reverse transcriptase, qui permet de copier le matériel génétique de ces fameux rétrovirus en ADN. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle rétrovirus, puisqu'ils vont au sens inverse de ce que fait la cellule. Nos cellules, elles ont de l'ADN, et cet ADN, il est copié en ARN. Eux, ces rétrovirus, ils ont comme matériel génétique de l'ARN, mais si, pour qu'ils puissent se multiplier, il faut qu'ils transforment leur ARN en ADN pour que leur ADN rentre dans l'ADN de nos cellules. Et ça, c'est cette fameuse enzyme, la reverse transcriptase, qui le fait. Et cette enzyme-là, la reverse transcriptase, venait tout juste d'être identifiée, d'être décrite par des chercheurs américains, ça leur a valu d'ailleurs le prix Nobel. Et donc moi je suis arrivé à ce moment-là à Pasteur.
Vous êtes arrivé pile en fait.
Je suis arrivé pile pratiquement. Et donc j'ai tout de suite appris justement à connaître cette enzyme, la reverse transcriptase, à connaître comment fonctionnait, comment se multipliait cette famille de rétrovirus, et aussi que cette reverse transcriptase, ça nous aidait à détecter les virus qui faisaient partie de cette famille, puisque c'était une grande caractéristique de cette famille de virus, la reverse transcriptase. Donc tout de suite, j'ai appris, d'ailleurs avec des chercheurs américains qui venaient dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman, à mesurer cette activité enzymatique qu'est la reverse transcriptase.
À l'époque, ces rétrovirus sont responsables, ou est-ce qu'ils sont déjà identifiés comme responsables de certaines maladies particulières ?
Les leucémies et les cancers, c'était clair, semblait-il, puisque c'est sûr que quand on injectait des souris avec un virus leucémogène de la souris développait une leucémie. Pour les rétrovirus de souris sarcomatogènes, eux allaient induire des tumeurs chez la souris, surtout quand on les associait justement à un virus leucémogène qui jouait le rôle d'aide pour le développement des tumeurs. Alors, à l'époque, c'est pour ça qu'on pensait que c'était très très important, cette famille de virus, à vrai dire, la relation entre rétrovirus et cancer, jusqu'à ce que d'autres chercheurs américains découvrent qu'en fait, ces rétrovirus de souris, mais aussi les rétrovirus chez le poulet, aviaire, chez les aviaires, en fait, c'était des virus qui avaient emballé dans leur matériel génétique à eux un gène de la cellule que l'on connaît sous le nom d'oncogène. Et qu'en fait, c'était pas le virus lui-même qui était à l'origine des cancers, mais que c'était le gène qui a été emballé dans le rétrovirus qui était responsable des cancers. Donc, j'ai eu de la chance, j'allais dire, entre guillemets, d'assister à toute cette évolution scientifique de données, mais aussi de voir que toute la communauté de chercheurs qui était beaucoup impliquée, très impliquée dans rétrovirus et cancers, elle s'est toute orientée rapidement plutôt vers la recherche sur les oncogènes, laissant un petit peu de côté la recherche sur les rétrovirus qui les intéressait plus, puisque c'était plus eux qui étaient réellement responsables des cancers, mais plutôt les oncogènes. Donc tout ça, c'est ce que j'ai pu assister, moi, je dirais, dans ma période début des années 70 jusqu'à ce que je parte en postdoc aux États-Unis.
Alors, une des caractéristiques de ces rétrovirus, c'est justement une grande variabilité aussi génétique du fait qu'ils font pas mal d'erreurs lors des processus de recopie.
Alors, pas tous. pas tous. C'est sûr que lorsque cette enzyme, la reverse transcriptase, copie l'ARN du virus en ADN, elle fait des erreurs. Et ça crée des mutations, et qui explique la diversité de certains rétrovirus, comme le virus du sida. Mais si le virus se multiplie pas beaucoup, ce qui est le cas de certains rétrovirus, à ce moment-là, il y a très peu de diversité. Donc il faut que ça soit des virus qui se multiplient beaucoup, qui aient une capacité réplicative comme le virus du sida, pour voir justement une énorme diversité génétique.
Mais cette diversité génétique donc est un problème supplémentaire, particulier en termes de thérapie.
Pas franchement, parce que si on regarde le VIH aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'impact du tout, bien sûr, mais on sait très vite finalement que la vaste majorité des virus responsables du sida sont sensibles à la vaste majorité du panel de thérapeutiques qu'on a dans les mains aujourd'hui. Il y a quelques petites variations pour quelques groupes de virus du sida, mais majoritairement ils sont sensibles. Non, là où ça pose des problèmes, c'est lorsqu'il y a arrêt du traitement. À ce moment-là, il y a des échappements thérapeutiques, c'est-à-dire que les virus qui se mettent à se multiplier sont des virus qui résistent au traitement. Ça, oui, ça c'est le problème de la résistance aux antirétroviraux.
Si le virus du sida était un simple virus, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de lutter contre lui ? Quelle est la part de la difficulté de mise au point des thérapies qui est liée à son caractère de rétrovirus ?
Je ne vois pas trop, à vrai dire, ce que vous appelez par un simple virus. Parce que de toute façon, les virus, il y en a des centaines et des centaines et des milliers.
On fait la différence entre virus et rétrovirus ou pas ?
Ah non. Pour moi, un rétrovirus, c'est une famille. Vous avez la famille des rotavirus, la famille des entérovirus, la famille... C'est tous des familles différentes les unes des autres.
Mais ce qui caractérise les rétrovirus, c'est cette mécanique de passage de l'ARN à l'ADN.
C'est vrai, mais les autres virus ont aussi des mécanismes de réplication qui peuvent être aussi un peu distincts entre différents virus aussi. Donc, finalement, il n'y a pas tant de virus que ça pour lesquels on ait des traitements, vous savez, aujourd'hui. Le VIH en est justement un des premiers exemples sur lequel on a des antiviraux. Parce que les antiviraux, avant le VIH, on n'avait pas beaucoup. Hein. Quelques-uns pour les herpès, pas très efficaces d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que quand on se fait traiter par des médicaments contre l'herpès, ça va calmer l'infection virale pendant un temps, et puis l'herpès va réapparaître. Donc on met les gens en rémission, quelque part, de leur herpès. Et c'est finalement grâce aux antirétroviraux qu'on a découvert les traitements pour l'hépatite C, qui aujourd'hui permettent de guérir de l'hépatite C. Mais il n'y a pas tant d'antiviraux que ça. Finalement, ça n'a pas été une difficulté, puisque là, on a des médicaments, contrairement à beaucoup d'autres virus pour lesquels on n'a pas de médicaments.
Alors, pour revenir à votre carrière et à votre premier séjour dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman, vous définissez avec lui votre sujet de thèse, qui va devenir donc votre travail pour obtenir le doctorat d'État. Et ce sujet, c'est la molécule de synthèse qui inhibe l'activité de transcriptase inverse pour contrôler la leucémie provoquée par le virus FRAND en culture. En deux mots, qu'est-ce qu'il était votre objectif précisément traduit en français ?
Traduit en français, en fait, à l'époque où j'étais dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman, il s'était aperçu au cours d'expérimentations, justement, chez la souris, ils utilisaient, ça c'est avant que j'arrive, ils utilisaient un procédé de concentration des virus de souris, et ils se sont aperçus qu'il y avait dans ce procédé un produit qui bloquait la multiplication de ces virus de souris. La molécule en question, il l'avait identifiée puisqu'elle était utilisée pour la précipitation de ces virus, la concentration de ces virus. Et à partir de ça, Jean-Claude Sherman avait été en contact avec des chimistes qui ont fabriqué toute une série de molécules proches du fameux produit qu'il utilisait pour concentrer les rétrovirus. Et dans cette série de molécules, ils étaient tous avec un numéro. Et moi, j'ai eu à travailler sur une molécule qu'on a appelée l'HPA23, donc la numéro 23, qui s'était avérée contrôler, mais extrêmement bien, la multiplication de ce fameux virus de Fresne de la souris dans les cultures au laboratoire, très efficace sur la reverse transcriptase de ces virus de Fresne, et pendant ma thèse aussi, voir que chez la souris, quand on inoculait les souris avec le virus de Fresne et qu'on les traitait avec cet HPA23, et il y avait une survie très significative des souris lorsqu'elles étaient traitées.
Alors cette thèse, en fait, autant vous aviez une petite année de retard lors de vos études secondaires, mais là, vous obtenez votre doctorat d'État en 1974, c'est-à-dire 2 ans après votre DEA, ce qui peut paraître relever du record.
Là, ça a été effectivement extrêmement vite.
On parce peut mettre que... 7 à 10 ans pour obtenir le même résultat.
Normalement, à l'époque, en plus, on était à une époque où il y avait la thèse de troisième cycle et puis ensuite le doctorat d'État qui prenait en général à peu près 5 ans. Il se trouve que à l'époque où je travaillais chez Jean-Claude Sherman, le directeur de Pasteur était Jacques Monod.
Le prix Nobel.
Et Jacques Monod avait pris la décision de fermer les laboratoires de Marne-la-Coquette et de rapatrier tous les chercheurs qui étaient à l'Institut Pasteur de Marne-la-Coquette à l'Institut Pasteur de Paris.
Où nous sommes actuellement.
Et donc, Jean-Claude Sherman et puis son responsable à l'époque m'ont fait comprendre qu'il fallait absolument que je mette les paquets doubles pour me dépêcher à passer ma thèse avant que ce déménagement se passe.
À cause de la désorganisation.
Oui, parce que ça crée forcément une grosse désorganisation, parce qu'il y a un arrêt des expériences, et donc je risquais de prendre beaucoup de retard pour réaliser mon sujet de thèse. C'est pour ça qu'on a fait très 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 vite.
De là à gagner 5 ans ou plus,
c'est il avait même fallu que je demande une dérogation, en fait, pour avoir l'autorisation de soutenir ma thèse en si peu de temps.
Et alors, ça s'est passé comment, cette soutenance
La soutenance s'est plutôt passée bien à l'époque, autant que je me souvienne, parce que c'est un peu vieux. c'est ici, d'ailleurs, à Pasteur, dans une salle qui est dans le bâtiment où on est là aujourd'hui. Voilà, avec un jury de chercheurs et d'universitaires qui avaient bien sûr eu mon manuscrit, parce qu'une thèse, c'est d'abord écrire un manuscrit, et ensuite de les envoyer au jury, le jury qui relit, qui fait des critiques, on fait des corrections, et ensuite on soutient devant le jury.
Alors comment expliquer un petit peu la charge de travail que ça représente, combien vous travailliez d'heures à l'époque pour arriver à passer un doctorat d'État en 2 ans?
On ne compte pas les heures, à vrai dire. D'abord, on travaille tous les jours. Moi, je ne sais même pas combien d'heures je travaillais. Je sais que je passais beaucoup, beaucoup d'heures de la journée et une partie de la nuit au laboratoire, bien évidemment.
Non, c'est jusqu'à un peu épuisement, en fait.
Épuisement, je ne sais pas, parce que quand on est passionné, finalement, l'épuisement, on ne le ressent pas.
Hein. Vous dormiez quand même un peu à l'époque.
Un petit peu, mais bon.
Le minimum nécessaire.
Oui, on peut dormir 4 heures tout en étant extrêmement fonctionnel. Hein.
Alors c'est ça, peut-être là, que cette passion se concrétise vraiment, même si on va voir qu'ensuite, évidemment, il y a d'autres chapitres à votre carrière. Mais là, vous donnez pleinement la mesure de ce que vous imaginez, peut-être, comme métier de chercheur.
À tous les cas, la passion était là, c'est clair. Pouvoir essayer de répondre à des questions en liaison avec les cancers et peut-être trouver des médicaments qui pourraient être éventuellement appliqués dans le futur au traitement de cancer, c'était absolument passionnant. C'est vrai que ça m'a permis aussi de commencer à interagir un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu avec des cancérologues, des médecins à l'époque, et que ça m'a faire entrevoir, je dirais, l'interaction aussi entre le monde de la recherche fondamentale et le monde de la clinique. Mais c'était tout à fait balbutiant. Puis, bon, j'avais commencé aussi, pour me faire un petit peu d'argent de poche, hein, à faire des cours, notamment à Villejuif, en cours de cancérologie de Villejuif, où je faisais des cours sur les rétrovirus, aux cliniciens et aux jeunes cliniciens de Gustave Roussy. Donc, bon, c'était bon, très, bien sûr, très prenant, mais en même temps très passionnant, justement, à la fois de faire la recherche de laboratoire, à la fois d'interagir avec d'autres chercheurs, d'autres personnes qui avaient tous le même objectif, finalement.
Au sujet de votre thèse de doctorat, quel impact a-t-elle eu sur votre carrière ensuite? Est-ce que ça a été une étape importante ou juste un travail nécessaire pour obtenir ce doctorat?
Je dirais qu'à l'époque, c'était l'objectif numéro un, c'était d'obtenir mon doctorat, qui est forcément pour des jeunes chercheurs une étape importante, puisque c'est la porte qui est en train de s'entrouvrir vers un parcours de chercheur. Donc c'était une étape tout à fait déterminante pour moi. Et à l'époque, je mesurais pas, et j'en ai pas mesuré en tous les cas à l'époque, quel impact ça pourrait avoir dans le futur. Et en fait, ça en a eu un, je dirais, involontairement ou volontairement, je n'en sais rien, mais lorsqu'on a découvert le VIH, il est vrai que assez vite, on s'est posé la question, bien sûr, de médicaments qui pourraient contrôler le virus, puisque là, on était dans une période de tragique et de crise, et que la première, finalement, molécule, on n'a jamais parlé dans la presse ni rien, sauf un peu avec Rocutson, mais la première molécule qui ait jamais été essayée, justement, pour essayer de bloquer la multiplication du virus du sida, c'était ce fameux HPA23. Donc,
sur lequel vous aviez travaillé.
Sur lequel j'avais travaillé pour ma thèse. Donc, ça a eu un impact plus tard. Bon, ça n'a pas marché, hein, HPA23. Il a fallu attendre les résultats avec l'AZT, qui a été la première molécule donnant réellement un effet significatif. Mais le concept, le principe d'avoir un inhibiteur de la reverse transcriptase pour bloquer la multiplication du virus du sida, finalement, il dérivait déjà aussi de mon travail de thèse.
Alors, ce travail de thèse est suivi immédiatement par votre départ aux États-Unis.
Ah oui, je suis parti à l'automne, assez vite, effectivement, après la soutenance de ma thèse aux États-Unis.
Pour quelle raison, en fait?
C'est, je vais dire, c'est presque de coutume dans le milieu de la recherche. Une fois qu'on a soutenu son doctorat, il est souhaitable, très souhaitable, d'avoir une expérience après le doctorat dans un autre environnement, sur un autre sujet, plutôt à l'étranger, plutôt, surtout à l'époque où je l'ai fait, mais c'est toujours encore un peu vrai maintenant, plutôt aux États-Unis. Donc voilà, j'ai suivi, j'allais dire, la règle habituelle de partir faire cette expérience postdoctorale à l'étranger et aux États-Unis.
Encore faut-il choisir un laboratoire,
alors,
une équipe.
Le laboratoire, pour moi, il était assez facile à choisir, étant donné que durant ma thèse, même avant ma thèse et pendant ma thèse, j'avais travaillé en relation avec un chercheur américain qui travaillait aux instituts nationaux de la santé, à Bethesda, aux États-Unis, et que ce chercheur était tout à fait partant pour m'accueillir justement pour cette expérience postdoctorale, en me donnant un sujet nouveau, pas le sujet sur lequel je travaillais, mais toujours dans le domaine de la rétrovirologie, toujours sur les rétrovirus. Et donc, je suis parti chez lui faire ce séjour où la question, c'était d'essayer de comprendre pourquoi certains rétrovirus sont contrôlés dans certaines espèces de souris et qui ne sont pas contrôlés dans d'autres espèces de souris. Et on savait qu'il y avait un facteur génétique de la souris qui était en cause, mais on voulait savoir quel était le constituant du virus qui interagissait avec ce facteur génétique de la souris. Donc voilà un petit peu le sujet de thèse que j'ai eu et ça a été une expérience enrichissante de travailler dans un autre environnement, dans un contexte de laboratoire américain où quelque part tout est beaucoup plus facile que dans un contexte de laboratoire français voire européen parce que il y avait beaucoup de financement, parce que tout était extrêmement organisé, parce que finalement il suffisait d'aller noter, je dirais quelque part sur un cahier, qu'on avait besoin de tel et tel réactif, le réactif arrivait tout seul, sans qu'on se pose de questions combien ça coûtait, etc. Et que moi j'étais pas du tout habitué à ça, puisque bon, dans le contexte de la recherche française, on passe nos commandes, mais on regarde par rapport au crédit qu'on a, si c'est pas trop cher, s'il y a pas des réactifs équivalents qui sont moins chers, etc. Donc ça, dans le contexte américain, c'était pas du tout le cas. On regardait pas les dépenses, on y allait. Par contre, à l'inverse, dans les équipes en France et souvent aussi en Europe, quand on accueille un chercheur après sa thèse, on l'entoure beaucoup plus. On le laisse pas un petit peu tout seul à se débrouiller. Alors que dans le contexte américain, non. Tu as ta thèse, bah tu définis ton propre... Voilà globalement le sujet. Maintenant, tu te débrouilles. Et tu viens me faire des propositions. Et puis, on en rediscutera quand tu auras des propositions. Ça, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, puisque dans le contexte des laboratoires où j'étais, c'était plutôt, on en discute dès le départ ensemble et on définit une stratégie ensemble. Tandis que là, ce n'était pas le cas. C'est montre combien tu as ton autonomie. Alors, c'est à la fois une bonne expérience et à la fois extrêmement compliqué quand on n'a pas l'habitude.
Est-ce que vous avez appris quelque chose de particulier qui vous a servi ensuite lors de votre retour en France ?
Ah oui, ça, j'ai appris justement beaucoup plus à devenir totalement autonome, bien sûr. Ça, c'est clair. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas d'un point de vue technique, technologique. J'ai appris à travailler dans des conditions de sécurité qu'on n'avait pas forcément dans le laboratoire où je travaillais à Pasteur. J'ai appris à réfléchir différemment à la manière un petit peu américaine de compétitivité plus grande certainement que je savais que la recherche était compétitive, mais dans le contexte américain, la compétition est à prendre en considération, je voulais dire, pratiquement au jour le jour. Donc tout ça, c'était une expérience très, très positive.
Merci Françoise Barré-Sinoussi. Nous parlerons demain de votre découverte du virus du sida.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Alberganti avec Françoise Barré-Sinoussi. À voix nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.